France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Old Man River, une plus grande plénitude à la fin de sa vie, c'est la voix de Louis Armstrong. En 1998, François Angelier, dans Agora, recevait Michel Bouju pour son livre consacré à Louis Armstrong. Le jazz, comme le cinéma, comme la littérature, l'une des grandes passions de Michel Bouju.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Agora, dont l'invité ce soir, Michel Bouju, pour un livre qui paraît aux éditions Plume, mais qui est tout simplement et simplement intitulé Louis Armstrong. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, Michel Bouju.
Ben, je crois qu'on a compris de quoi je parle.
Voilà, absolument. Donc c'est un livre qui est en définitive constitué par un trésor, une sorte de trésor accumulé au fil des années, au fil des lectures, au fil des recherches. C'est un livre dont on pourrait dire le cœur est formé par toute une série de citations, toutes assez longues, toutes assez belles, venant de gens aussi divers que Tristan Tzara ou Le Corbusier, de citations qui concernent Louis Armstrong. Alors, vous accumuliez ce petit trésor personnel dans un coin ?
Oui, je le transportais avec moi. Au gré de mes lectures, d'abord, dans un premier temps, c'est que j'ai constaté une chose qui était qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'écrivains, de poètes en particulier, qui avaient, à un moment ou à un autre, écrit sur Louis Armstrong, qui avaient dit leur admiration profonde devant cet univers incroyable qui était celui de Louis Armstrong. Et je me suis dit, tiens, quand même, il a dû avoir une importance fabuleuse dans les années 30 et 40, principalement, car la plupart de ses textes, effectivement, avaient été écrits dans ces années-là. Et partant du fait que j'avais trois ou quatre de citations comme ça qui me tenaient à cœur, je me suis dit, il doit y en avoir d'autres qui sommeillent dans les bibliothèques, dans les livres, etc., ou dans les revues. Allons y voir de plus près.
Alors, à côté de ces citations nombreuses qui sont signées, je le rappelle, aussi bien Henry Miller que Le Corbusier, Tristan Tzara, André Ardelais, Simone Signoret, j'en passe, et de bien d'autres, il y a à côté des photos. Alors là, c'est pareil, des photos aussi bien de Armstrong en concert, de Armstrong dans son intimité, de Armstrong au cinéma. C'est sûrement un des hommes du XXe siècle qui a été le plus photographié.
Oh, je sais pas, Leonardo DiCaprio.
Oui, peut-être autant.
Peut-être été autant photographié qu'Armstrong en 6 mois qu'Armstrong durant toute sa vie. Mais bon, il y a de fabuleuses photos. Comment sélectionner? Là, il y en a 150 à peu près. J'ai eu entre les mains, je pense, 4 ou 5 000 photos sur beaucoup d'années, comme ça. Petit à petit, nous avons procédé par élimination et toujours dans l'idée de se dire, bon, il y a une photo, il faut qu'il y ait un texte. C'est pas un livre de photos, je n'ai rien contre les livres de photos, bien au contraire, il y en a d'admirables, mais là je voulais qu'il y ait véritablement un équilibre entre les textes et les photos. Et depuis que le livre a paru, j'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup réjoui, que j'aurais peut-être mis en épigraphe, en exergue. Si
complétons le livre à l'antenne.
Alors, complétons-le. Complétons-le avec vous. C'est une phrase de Borges, tant qu'à faire. Bon.
Qui n'est pas citée, mais qui va l'être.
Peut-être, oui, qui va l'être maintenant. Il expliquait ce qu'était son livre, ce que je ne connais d'ailleurs toujours pas, mais que je vais me mettre à chercher, qui s'appelle Atlas.
Oui.
Livre de Borges qui s'appelle Atlas, et qu'il présentait ainsi, ce n'est ni une suite de textes illustrés par des photos, ni une suite de photos expliquées par des épigraphes, mais un tout fait d'images et de mots. Alors c'est formidable, je trouve que Borges a admirablement compris mon livre.
J'ai déjà lu votre livre. Ces photos de Armstrong, on a un peu le sentiment qu'il y a deux types de photos. Il y a les photos où Armstrong se donne en spectacle, il sait qu'il est photographié, et d'une certaine manière, comme disent les Américains, il deliver the goods, il livre la marchandise, c'est-à-dire qu'il joue Armstrong. Et puis alors il y a des photos en coulisses, chez lui, où là, on sent qu'il se replie, il y a une intériorité, c'est autre chose.
C'était à la fois un formidable showman, comme on dit, un homme de one-man show, sur scène, roulant des yeux, etc., ce qu'on lui a reproché en le traitant d'oncle Tom, parce que c'était pas digne qu'un noir roule des yeux comme ça. En fait, il faisait ça parce qu'il savait que le gros public aimait bien le voir faire le bouffon, C'est pas du tout indigne, mais il n'était pas dupe une seconde et il gardait une énorme dignité face à ça. Alors il y a toutes les photos effectivement du showbiz, pourrait-on dire, du showman, et puis il y a les photos d'un homme discret qu'il était, un Américain tranquille.
Oui, on le voit dans sa petite maison de Corona avec sa femme dans le jardin.
Voilà, bon, alors ça c'est à la fin de sa vie. Ouais. Il a été moins tranquille quand il était un jeune homme dans cette ville très agitée que devait être la Nouvelle-Orléans dans les années 16, 17, 18. Il se passait beaucoup de choses. Sa première épouse était une jeune prostituée qui s'appelait Daisy, et il y a des anecdotes, effectivement, Daisy le poursuivant dans les rues de la Nouvelle-Orléans avec un couteau, parce qu'elle le soupçonnait de ne pas lui être... elle soupçonnait Armstrong de ne pas lui être fidèle, etc.
Mais vous dites quelque part qu'il y a eu beaucoup de succès avec les femmes de chambre quand il jouait dans les grands hôtels de province.
Ah, c'est pas moi qui me permet de dire...
C'est rapporté.
J'ai pas écrit un livre de ragots, de people. Non, c'est Armstrong lui-même qui dit qu'effectivement, quand il était... C'est un homme qui a vécu toute sa vie pratiquement... Enfin, toute sa vie, non. Toute sa vie d'homme, de jeune homme, à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, puis à Chicago, puis à New York, à l'hôtel. Et dans les hôtels, il y avait forcément des tentations.
Des soubrettes.
Voilà. Et puis alors, après, il a épousé donc sa quatrième épouse, et là, il lui est resté fidèle.
Alors, Michel Bouju, justement, donc il y a ces citations très nombreuses, toutes très ferventes et très lyriques sur Louis Armstrong. Il y a ces magnifiques photos, photos de cinéma, photos d'intériorité, photos de concert. Et puis donc, il y a une chronologie extrêmement fournie. Et on peut commencer peut-être par évoquer la pousse de cet extraordinaire arbre qu'a été Louis Armstrong. Parce que moi, j'ai vraiment lu minutieusement la chronologie. Et puis, d'autres biographies lues précédemment de Jazzman, on a quand même le sentiment de choses difficiles. Bon, la vie de Billie Holiday, la vie de Charlie Parker, la vie des premiers Jazzman, même Charlie Mingus, pour pas citer d'autres qui ont été ravagés par la drogue, comme Chet Baker ou d'autres saxophonistes, dont le nom m'échappe, qui était West Coast, un autre saxophoniste qui a été lui aussi miné par la drogue. Alors, avec Armstrong...
Art Pepper,
exact. Avec Armstrong, c'est tout à fait différent. Entre 1901, date de sa naissance, et 1971, date de sa mort, on a l'impression de voir se déployer une extraordinaire plante, comme ça, quelque chose de fabuleux, quelque chose de sain, de lyrique, de majestueux, d'effabuleusement puissant, et qui monte naturellement, et qui existe au fur et à mesure des années, qui se déploie. Armstrong se déploie.
Mais vous êtes aussi lyrique les auteurs que j'ai collectés, effectivement. C'est un arbre, Armstrong, effectivement, c'est une très belle et très juste image. On pourrait dire que cet arbre plonge ses racines dans les rives du Mississippi, qui est le père des eaux, hein. C'était Old Man River, comme dit la chanson. Et puis, il y a eu, après, un tronc extraordinaire, et puis des branchages, et puis des feuillages, une espèce d'arborescence, comme ça, et de luxuriance totale. L'homme était... il n'était pas grand, hein. C'est parce qu'on dit, c'est un baobab, Armstrong, etc. Ouais. Sauf que c'est un homme plutôt petit, 1m65, c'est pas immense. Mais cet homme de taille moyenne avait les pieds bien posés sur la terre, comme hanté, on pourrait dire. Il reprenait ses forces dans la terre nourricière, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, le Mississippi, auquel il était resté attaché toute sa vie. Il y retournait de temps en temps. Ça se passait mal parfois, parce que ce Mississippi a été un des États les plus longuement racistes. Enfin, une histoire terrifiante de lynchage, Ça, on connaît tout ça, mais il était quand même très attaché à ses racines, hein, dans le Mississippi, comme je disais. Il a eu une vie heureuse, Armstrong. Effectivement, il n'a pas... c'était pas un angoissé, autant qu'on puisse le savoir. C'est quelqu'un qui était bien équilibré, effectivement, qui n'a donc pas eu beaucoup recours à l'alcool ou...
De temps en temps.
Alors, oui, de temps en temps. Non, pas de temps en temps. Très régulièrement.
Très régulièrement.
Bon. Je pourrais même dire, d'après mes lectures, etc., les quelques témoignages que j'ai recueillis, quotidiennement, un pétard, entre deux morceaux, il rentrait dans sa loge, voilà. Mais ça n'empêche pas que je maintiens que Armstrong était un homme très équilibré.
Alors celui d'Armstrong, Michel Bouju, à qui vous consacrez un très beau livre aux éditions Plume. Donc c'est en 1913, on connaît l'histoire, il tire des coups de pistolet la nuit lors d'une fête.
L'histoire et la légende, comme on dit, se mêlent. Mais c'est vrai qu'il a vraiment effectivement...
Et il est envoyé dans une sorte de prison, de foyer pour petits délinquants, dont le directeur visiblement ne lui a pas trop déplu, puisqu'il reviendra le voir. Il y a une photo dans le livre, il reviendra lui serrer la main bien des années plus tard.
C'était un homme de fidélité, Armstrong. C'était on appelait ça à l'époque, ça existe encore hélas, mais sous des noms plus convenables, mais une maison de redressement. Voilà. C'est dans cette maison de redressement qui n'était pas un bagne, pour autant, que un professeur, que le directeur et puis des gens qui travaillaient dans cette institution lui ont appris la musique, tout simplement. C'est-à-dire qu'Armstrong est devenu Armstrong grâce à ce passage au Waves Home. C'était le nom de l'établissement en question.
Donc alors, il joue d'abord dans la fanfare, après il découvre le cornet.
Il était un homme de fanfare, comme tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans de l'époque. En sortant de cette maison, il a joué dans des fanfares dans la rue. Il y avait des fêtes organisées, il y avait les enterrements. L'enterrement à la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas une légende, ça se faisait véritablement dans les rues de cette ville. Et au fond, c'est un peu une musique un peu primaire, je dirais. Je fais faire de la peine aux amateurs stricts, purs et durs de musique de la Nouvelle-Orléans, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler tout simplement, oui, une musique de fanfare. Et Armstrong, à partir de cette musique de fanfare, est devenu l'admirable soliste il s'est dégagé de cette gangue.
Donc, il s'est passé entre lui et cet instrument une espèce de chimie magique, instantanée et définitive. Et puis, alors, peu à peu, il est devenu une espèce de vedette, une véritable institution. Alors, quel a été cet apport immédiat d'Armstrong à la trompette jazz? En quoi a-t-il brûlé? Parce qu'il n'est pas arrivé le premier. On parle King Oliver,
mais non.
Là, Buddy Bolden était
son
là.
Vrai... Bon, Buddy Bolden, c'est un être, un personnage qui a existé, mais devenu mythique, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement. Donc on ne peut pas savoir, personne ne peut savoir comment jouait ce Buddy Bolden qui s'arrachait le cœur et les tripes, dit-on, quand il jouait, qui en est devenu fou. Mais le seul vrai maître de Louis Armstrong, ça a été King Oliver, qui s'appelait Joe Oliver, qu'on appelait le roi Oliver, qui a tout appris, il a tout appris à Armstrong, il a tout donné à Armstrong. C'était un homme généreux, qui est mort très jeune, et qui a pressenti ce que pouvait apporter musicalement Armstrong. Il lui a donné sa chance.
Donc,
il était d'abord le deuxième cornet, car effectivement, au début, ce n'est pas de la trompette que joue Armstrong, c'est du cornet, c'est-à-dire un instrument très proche de la même famille, un peu plus rudimentaire, disons. Et très vite, effectivement, en faisant la deuxième voix derrière King Oliver, Armstrong a révélé non pas seulement des talents musicaux, mais une espèce de force, d'humanité qui passait à travers la musique qu'il créait.
Parce que quand on lit les nombreuses citations que vous avez recueillies, on a l'impression effectivement qu'on est saisi par une sonorité. Il y a quelque chose qui se passe. Vous citez, c'est extraordinaire, un passage du musicien Jack Teagarden qui est sur les rives du Mississippi et puis qui voit un bateau s'approcher.
Dans le brouillard.
Dans le brouillard. Et puis alors, avec ce bateau arrive une espèce de sonorité de trompette. Alors, il tend l'oreille. Il écoute un peu plus et cette sonorité devient totalement envoûtante. On a toujours l'impression qu'avant, je dirais, une construction musicale, c'est avant tout une sonorité.
Il y a la puissance de cette sonorité qui est effectivement qu'on n'avait jamais entendue avant Armstrong dans le jazz. King Oliver était un très grand soliste, mais il n'y avait pas cette puissance, il n'y avait pas ce vibrato, il n'y avait pas cette construction d'une rigueur absolue, la rigueur dans l'improvisation, instinctivement. Il a apporté tout ça à la fois, mais on ne pourrait pas comprendre l'importance d'Armstrong si on se contentait d'énumérer ses qualités strictement musicales.
Il y a quelque chose
ça
en
traduit
plus.
Quelque chose de plus qui est, j'emploie un mot bête, un mot simple en tout cas, qui est l'humanité.
Oui, c'est ça. Donc
Armstrong était un personnage, ça apparaît dans tous les témoignages, était un homme bon.
Oui, c'est ça. Donc, je ne veux pas, de mon côté, de parler d'une vertu morale à sa manière de jouer de la trompette.
Armstrong n'était pas un petit saint. Quand je dis qu'il était bon, je veux dire par là qu'il était un homme généreux. Ouais. Et le jazz d'Armstrong est une musique de générosité avant tout.
Alors, ce qui est fascinant, donc, à suivre le déroulement de sa vie et de sa carrière, c'est de voir qu'effectivement, très rapidement, les choses se font. Ça devient une immense vedette. Et puis, alors, ça devient, je dirais presque même pour les Noirs américains, un modèle social. Parce que vous rapportez des témoignages que j'ignorais, qui sont extrêmement savoureux, que les jeunes Noirs américains copiaient sa manière de s'habiller, sa manière de poser les mains sur le ventre, une espèce de placidité un peu bouddhique, le mot est employé,
oui,
sa manière de marcher. Ça devient vraiment un personnage qu'on peut dessiner tout de suite.
Dès qu'il arrive, c'est surtout au moment où il arrive à New York, effectivement, où les grands médias de l'époque s'emparent de lui. Il est sur les plus grandes scènes, son nom brasille, scintille dans la nuit, The King of Trumpet, Louis Armstrong, in person, etc. Donc il devient une espèce, très vite, effectivement, en quelques années, il devient une espèce de mythe vivant, et forcément, il est un modèle principalement pour les jeunes blacks de l'époque. Alors ceux qui s'habillent comme lui, qui marchent comme lui, Et tous ceux
un mouchoir à la main, comme
un mouchoir à la main, parce qu'il transpirait beaucoup, oui. Il s'épongeait le front pendant les concerts, toute sa vie. Mais il influence évidemment les jeunes blacks et surtout les musiciens. C'est pas seulement un truc vestimentaire. Mais alors là, il n'y a pas un musicien qui se met à jouer de la trompette ou d'autres instruments, mais enfin, parlons principalement des trompettistes, qui n'est pas quelque chose, qui ne doivent pas quelque chose à Armstrong. Ils se mettent à imiter comme des fous. Il y a même un musicien blanc qui s'appelle Jack Purvis, un très bon trompettiste, qui lui, alors, carrément dit les choses, enfin, est très honnête, au fond, il enregistre un morceau qui s'appelle Copying Louis, c'est-à-dire en copiant Louis.
Mais il s'est passé quelque chose d'assez unique, parce que bon, effectivement, on a imprimé des partitions de Duke Ellington, mais là, c'est normal, c'est un arrangement, enfin, les arrangements sont pas publiés, enfin, les morceaux d'Ellington sont publiés, mais là.
On publie les partitions.
Voilà. J'ai noté qu'en 1927, on retranscrit les chorus de Louis Armstrong et on vend les chorus d'Armstrong. C'est assez unique.
Dès 1927, ce qui fait qu'effectivement, dans les familles noires, il y a un fils qui se met à jouer de la trompette et forcément, il se met à jouer. Et comme il y a les disques qui existent déjà à l'époque, qui sont très, même très, très populaires chez les noirs, on appelle ça des race records. C'est affreux, des disques. On dirait des disques ethniques, ce qui n'est pas tellement mieux. Enfin bon, les race records. Et ils se mettent à copier note pour note, ça c'est le cas de le dire, les solos d'Armstrong.
Quand on peut y arriver, parce que j'ai souvenir d'un témoignage de Roy Elridge, autre grand trompettiste de jazz, qui avait écouté un solo d'Armstrong et qui n'a jamais pu le recopier. Il dit, là, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce qu'il fait.
Un tour de main morceau, ou un tour de lèvres, effectivement. Et pourtant, Roy Elridge, on peut considérer qu'il est le passeur entre Armstrong et Dizzy Gillespie. C'est-à-dire que c'est un moment très important du jazz. L'homme qui va... Little Jazz, on l'appelait. Il venait d'Armstrong, véritablement, son art et son talent de trompettiste venait d'Armstrong, et il va passer le relais, il va le prendre au passage, le relais, et il va le passer ensuite à Dizzy Gillespie. Car le jazz est une histoire qui se continue comme ça de musiciens. C'est une immense chaîne qui continue encore aujourd'hui, heureusement.
Alors, j'en recevais récemment Eduardo Arroyo à propos de Panama Al Brown, autre grande star noire de l'époque. J'ai aussi le sentiment qu'à la semblance de Panama Al Brown, un des principaux dangers qui guettaient un musicien comme Armstrong, c'était l'imprésario. Parce que ça n'arrête pas.
Il tombait, évidemment. Il est tombé.
Dans le monde entier.
Eh oui. Tous les soirs de l'année, il est tombé, Armstrong, entre les mêmes pattes que sont tombés des sportifs, un boxeur comme Al Brown, effectivement, d'impresario qui étaient des gangsters. Un en particulier qui s'appelle Johnny Collins, qui avait un vrai comportement de gangster. C'est pas une façon de parler plus ou moins imagée, c'était ça. Il était entre les pattes d'un truand de haut niveau, qui avait beaucoup d'influence à New York, dans ce milieu-là, et qui lui imposait un rythme de travail effrayant. Donc Armstrong a été, au fond, véritablement une sorte d'esclave du show business de l'époque. Et il n'était pas le seul. Ils étaient tous à cette même chaîne. Alors on pourrait dire une cage dorée, une chaîne dorée, mais n'empêche que c'était un réel esclavage, et que si Armstrong avait eu le choix... À un certain moment, il l'a eu, du reste, ce choix. Enfin, s'il avait eu le choix dans les années 30, par exemple, il n'aurait pas joué tous les soirs de sa vie, et parfois en matinée.
Mais vous dites qu'il jouait 350 nuits par an ?
Quasiment, jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement.
Au péril de ses lèvres, si j'ose dire.
Mais bien entendu, ses lèvres l'ont fait horriblement souffrir à différentes périodes de sa vie. Et c'est drôle que vous parliez d'Al Brown, parce que j'ai entendu cette émission où vous interviewiez Arroyo, je connais ce livre, que j'aime, et Arroyo ne dit pas une chose dans ce livre, mais bon... Personne n'est parfait, comme dit l'autre, donc c'est un très beau livre. C'est que quand Armstrong est venu jouer à Paris pour la première fois en 1934, un des Américains de Paris qu'il a beaucoup fréquenté était Al Brown, avec qui il s'entraînait pratiquement tous les jours, tous les après-midi, à la salle Bullard de la rue Mansart. Il s'entraînait à la boxe. Armstrong pensait même à une époque abandonner le jazz, la trompette, pour devenir boxeur.
On parlait de la cage dorée du showbiz, effectivement, on lui a fait faire des films qui étaient quand même indignes de son talent et de sa personnalité.
Où il jouait effectivement les utilités. Alors dans un film, il est valet d'écurie, il joue de la trompette pour entraîner le cheval dont il s'occupe, n'est-ce pas, qui ne consent à courir que lorsque retentit la trompette d'Armstrong, vous voyez le truc. Ça nous donne à nous aujourd'hui évidemment des témoignages très émouvants d'une certaine façon. Ou alors il est valet de chambre. Ça, c'était la Hollywood de cette époque. Ça va presque jusqu'à les années 50, ne nous y trompons pas. Ne donnait aux grands artistes noirs, musiciens de jazz ou autres, que ces rôles d'utilité. Billie Holiday a été femme de chambre dans New Orleans, aux côtés d'Armstrong, par exemple. Mais Armstrong jouant le valet de chambre ou le valet d'écurie, gardait quand même une immense dignité.
Oui, il montrait qu'on ne pouvait rien contre lui, qu'en définitive.
Et bien entendu, les Blancs veulent que je sois valet d'écurie, valet de chambre. Eh bien, je serai valet de chambre, valet d'écurie, mais voilà, moi, ce que je suis Louis Armstrong et je vous emmerde.
Voilà. Alors justement, cette image toujours du noir réjoui que les Blancs lui ont fait interpréter jusqu'à la nausée, il y avait des moments où il prenait le système en défaut. Et ça, c'est raconté, c'est très impressionnant. Un moment, à l'assemblance de Duke Ellington qui sillonnait le monde pour représenter le génie américain, on a voulu, le président Eisenhower, je crois, a voulu qu'Armstrong aille représenter les États-Unis. Et il a dit... Il n'y en a pas question.
Qu'Armstrong soit une sorte d'ambassadeur, voilà, ouais. N'est-ce pas? Ambassadeur de la bonne volonté, etc. Enfin, des mots creux comme ça. Et c'était l'époque où il y avait justement des émeutes raciales extrêmement graves du côté de Selma, en Alabama. Et Armstrong, tout simplement parce que le gouverneur de cet État, qui était un raciste, qui s'appelait Phobus, si je ne m'abuse.
Alors, il n'a pas écrit Fables of Phobus comme Charlie voilà. Mingus.
C'est le Phobus ouais. de Charlie Mingus, mais lui-même. Alors, à deux générations d'intervalle, Armstrong a eu une position aussi radicale que celle de Mingus. Ce qui était peut-être plus difficile à prendre pour lui. Lui, le prolétaire, hein, il n'avait fait aucune étude d'aucune sorte, Armstrong. Mais il avait une conscience de la... négritude, probablement qu'il n'employait
vous
pas
vous citez Senghor parmi les auteurs cités.
Il y a un texte de Senghor, effectivement, auquel je tiens beaucoup, parce que Senghor situe effectivement l'importance d'Armstrong par rapport à cette notion qu'il a développée de négritude.
Alors moi j'ai choisi un texte, là Michel Bouju, que vous avez recueilli, qui n'est pas de Senghor, qui n'est pas d'André Ardelais ou de Simone Signoret, qui est de Le Corbusier. Alors, on est un peu surpris de voir que cet architecte visionnaire, maurrassien, amateur de nombre d'or, rend un hommage absolument vibrant à Armstrong.
Et très bien écrit.
Très bien écrit dans son livre « Quand les cathédrales étaient blanches », je cite le texte. « Entrons à Broadway chez Armstrong, le titan noir du cri, de l'apostrophe, de l'éclat de rire, du tonnerre. Il chante, il s'esclaffe, il fait gicler sa trompette d'argent. Il est la mathématique, l'équilibre sur la corde tendue. Il est shakespearien, pardonnez-moi, pourquoi pas ?» Impérial, Armstrong fait son entrée. Sa voix est creuse comme un abîme, c'est un trou noir. Il éclate de rire, il hurle et il embouche sa trompette. Avec ce cuivre, il est tour à tour démoniaque et badin et monumental, d'une seconde à l'autre au gré d'une fantaisie ahurissante. Cet homme est follement intelligent, il est un roi, Le Corbusier.
Bravo, extraordinaire. Vous l'avez très bien lu.
Merci.
Alors, bien sûr que c'est une littérature datée. Il y a un lyrisme, des années... fin des années 30, disons bien sûr, mais il n'en reste pas moins qu'on sent bien dans les mots de Le Corbusier, dans les phrases de Le Corbusier, on sent une vraie sincérité. Ça a été une découverte incroyable pour ses contemporains, surtout des années 30 et 40, j'insiste, parce que c'est la période où Armstrong est le plus fécond, hein, et le plus inventif, évidemment.
Mais justement, avoir tous ces témoignages, on ne peut pas les citer tous. Il y a Jean-Christophe Averty, Boris Vian, Roy Elridge, on en parlait il y a quelques minutes, Claude Roy, Simone Signoret. D'ailleurs, Simone Signoret, c'est un extrait de La Nostalgie n'est plus ce qu'elle était, c'est assez drôle. On parlait de tout ce dont on avait été sevré pendant 4 ans, c'est l'occupation, point. Louis Armstrong était-il encore vivant? Comme si on n'était plus dans la musique, mais dans le symbole.
J'ai trouvé cette phrase comme ça, qui peut paraître anodine, j'ai trouvé quand même très belle, parce qu'elle montrait que, voilà, quelqu'un, Simone Signoret, qui, comme tous les Français, qui sort de la nuit, de l'occupation, et quelle question pose-t-elle au premier GI qu'elle rencontre? Armstrong est-il vivant? Donc ça veut dire c'est au-delà d'Armstrong. Armstrong était, au fond, pour moi, c'est un immense musicien, c'est tout ce qu'on veut, mais moi j'ai fait le livre sur mon héros culturel quand j'avais 14 ou 15 ans. Alors, c'est un héros culturel.
Une citation de Michel Bouju qui ouvre ce livre. Vous racontez vos émois, vos émotions armstrongiennes. J'en garde le souvenir d'un bonheur résolu qui frissonne et qui claque dans un solo de trompette, transparent et transperçant comme un cristal de bohème. Armstrong fut ce drôle de roi nègre dont la voix de toile émerie, brume et cannelle mêlée, s'élevait sur les bayous du sud comme sur la mélasse des grandes villes de l'est, sur le Montparnasse des heures chaudes et sur le New York des lunes froides.
J'ai voulu me mettre au diapason des auteurs dont j'ai recueilli la prose ou la poésie. Ben moi, j'avais 14-15 ans, effectivement, et un jour, j'ai vu, pendant l'été, dans un cinéma de vacances, un petit film comme il y avait en première partie du spectacle, du samedi soir, disons. Et il y avait comme ça, un petit film de 3 minutes où Armstrong jouait devant son orchestre. J'avais entendu un petit peu de jazz sur les ondes à l'époque. J'avais jamais vu de musicien sur scène. J'ai été absolument cloué de stupeur devant la beauté de ce que je voyais, de ce que j'entendais surtout. Et ça ne m'a pas quitté.
On a évoqué la trompette, mais il y a la voix. Le souffle passe dans la trompette, mais il y a cette voix qui est absolument
Armstrong est un aussi grand chanteur qu'il est grand trompettiste, c'est bien évident. Et alors, à partir d'un certain moment, fatigué, à la soixantaine, il a beaucoup plus chanté sur scène que joué de la trompette. Mais je crois que pas un spectateur dans les salles de concert du monde entier où il continuait à se produire n'était frustré parce qu'Armstrong jouait un peu moins de trompette. Il chantait de mieux en mieux. Quand on entend Armstrong chanter en 27, c'est assez formidable, mais quand on l'entend chanter en 1968 ou 9, à la fin de sa vie, c'est encore, il y a une plus grande plénitude dans la voix de cet homme. La voix du gorille et la voix de la tourterelle, écrit quelque part, enfin dans le livre en tout cas, Léopold Sédar Senghor, le poète.
Il y a également le scat. Parce que y a Hello Dolly qu'on connaît, mais il y a
le scat,
ça c'est encore mieux.
Le scat, c'est formidable parce que c'est une invention qui était dans l'air, comme on dit, de toutes les inventions, mais c'est quand même Armstrong qui, le premier sur un disque, alors là, il y avait peut-être avant, mais qui n'avait pas été enregistré, s'est mis à chanter du scat, c'est-à-dire...
Parce que les paroles non plus pas, ou...
Alors on raconte, on raconte que la partition qu'il tenait dans les mains et qu'il connaissait pas par cœur est tombée par terre et qu'il s'est mis à faire du scat, c'est-à-dire, au lieu de dire des paroles, de chanter des paroles d'une chanson, de se mettre à faire des onomatopées. Je peux pas essayer de faire le scat.
Pas me demander de faire du scat à l'antenne.
Armstrong le fait admirablement et ça a été repris par, il a eu une grande disciple en matière de scat Armstrong. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais une grande en particulier qui n'est autre que Ella Fitzgerald.
Alors justement, on parle de ce vis-à-vis glorieux et talentueux qu'était Ella Fitzgerald, mais on remarque quand même dans la narration de toute sa vie d'artiste, que il est rarement, comme c'est très souvent le cas dans le jazz, confronté à des géants équivalents. Il y a un disque avec Duke Ellington, il est un peu All Stars, Louis Armstrong et ses musiciens.
Oui, il y a une très belle rencontre au sommet, comme on disait à l'époque, sur les pochettes de disques, entre Armstrong et l'orchestre de Duke Ellington. Et c'est vrai que le disque qui est né de cette rencontre est magnifique. Mais en général, quand on met sur scène les plus grandes pointures de leur spécialité, il y a les grandes revues américaines à cette époque, peut-être encore aujourd'hui, faisaient des référendums auprès de leurs lecteurs. Alors, le meilleur trompettiste, le meilleur saxo, le meilleur trombone, le meilleur batteur, le meilleur guitariste, etc., etc. Et on les mettait tous ensemble sur scène pour un concert et on enregistrait le tout. Ça ne donne pas à tout coup, ça ne donne pas forcément de grandes œuvres de mettre les plus grands de chaque catégorie.
Et Armstrong refusait ce procédé qui consiste à faire the best of.
Il l'a fait de temps en temps, mais enfin, ça, je crois que les grands musiciens n'aiment pas beaucoup. C'est pas par peur d'être confronté à d'autres grands. C'est que je crois que les musiciens, ce qui est important, qu'est-ce que c'est un bon orchestre, un bon All Stars, comme avait Armstrong dans les 20 dernières années de sa vie, c'est les musiciens qui s'entendent bien ensemble, musicalement, peut-être humainement parlant aussi. C'est ça.
Merci Michel Bouju d'avoir été ce soir l'invité d'Agora pour un livre superbe que je vous recommande. Donc Louis Armstrong, à la fois recueil, trésor de citations ferventes pour Armstrong, chronologie minutieuse et puis d'extraordinaires photos. On peut voir Armstrong chez lui, sur scène et au cinéma. Bonsoir, merci d'avoir suivi cette Agora dont la prise de son était signée de Laurent César, la réalisation d'Anna Schmuck. Et je rappelle que vous pouvez consulter les programmes d'Agora sur le Minitel 3615, code France Culture. Bonsoir à tous, nous vous laissons avec Armstrong. Yes, sound like a doula means and check a boula brew. But the thing on the bob that just a job is bibbidi bobbidi boo. Yeah, sound like a doula me check a boula bibbidi boo. Put them together and what have you got? A bibbidi bobbidi boo. Chick-a-boola blue, but the thingamabob that does the job. Bibbidi-bobbidi-boo. Blue! So look at you, love me, chick-a-boola, bibbidi-bobbidi-boo. Now you put them together, Kate, what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 décembre 1998. du temps du Minitel. Alors actualisons l'annonce de François Angelier. Les programmes de France Culture sont désormais disponibles sur le site France Culture, franceculture.com. Michel Bouju est mort le 29 mai 2011.